Donc, juste un mot pour remercier la librairie Mola de son bon accueil. On y a les uns et les autres nos habitudes depuis longtemps. Et pour dire que contrairement à l'affiche en bas, il n'y a pas qu'un nom. Point Rencontre est un travail à plusieurs où rien ne se fait jamais tout seul, où les choses se tissent toujours à plusieurs depuis l'origine. Donc il y a quelques-uns des plusieurs ici qui diront des choses. Il y a d'autres plusieurs qui sont dans la salle aussi, parce que Point Rencontre est aussi une équipe où on débat des choses à l'envers d'ailleurs, où on a des débats extraordinaires et où on se bat par exemple pour que le nom ne figure pas sur la couverture d'un livre. Et où on dit, mais moi je soutiendrai d'autant mieux ce livre que mon nom ne sera pas sur la couverture. Donc il y a des présences très très actives dont le nom n'est pas sur la couverture, mais qui sont vraiment des piliers et des ouvriers et des ouvrières de ce travail-là. Nous avons aussi deux invités débatteurs que l'on remercie, Jacques Faget, qui est prof de sociologie du droit, entre autres choses, qui s'occupe beaucoup et qui théorise beaucoup sur les questions de médiation et qui est aussi prof à l'IEP et directeur de recherche au CNRS, et Olivier de Blaye de Gaix, qui est vice-président du TGI et qui assure les fonctions de juge aux affaires familiales et avec qui nous sommes en partenariat, comme avec l'ensemble des équipes de JAF. Depuis l'origine, puisque Maddy va en dire un mot. Voilà.
Bon, nous vous présentons un livre qui s'appelle « Rencontrer l'autre parent ». Voilà. Normalement, un enfant, il s'agit d'enfants, bien entendu, un enfant vit avec ses parents ou avec un de ses parents et avec l'autre. S'il a besoin de le rencontrer, c'est qu'il y a un problème dans la relation et dans la relation entre les parents. Il s'agit de parents séparés, bien entendu. Le sous-titre, c'est « Les droits de visite en souffrance ». Les droits de visite parce que le juridique intervient là-dedans. Quand il y a un droit de visite, ça veut dire qu'un un parent séparé a le droit de voir son enfant, de même que l'enfant a le droit de voir son parent. Les droits de visite en souffrance, bon, j'ai pris la métaphore des... Une métaphore postière, je dirais, des colis en souffrance, ça veut dire qu'ils attendent. On ne sait pas trop quoi en faire, ils attendent, quelquefois ils restent là. Et ça veut dire aussi, évidemment, bien sûr, avec le jeu de mots sur le mot de souffrance, que ces enfants sont en souffrance psychologique. Bon, je n'avais pas prévu de présenter le livre en premier, mais Serge m'a demandé cet après-midi. Je ne peux pas refuser puisque c'est moi qui ai écrit l'introduction. Après, je peux passer la parole aux autres. Refaire un petit peu d'histoire, mais très très rapidement, du Point Rencontre, parce que bon, le passé c'est le passé. Ceci dit, avant qu'il y ait des points rencontres, c'est-à-dire des lieux d'accueil pour des droits de visite conflictuels, avant qu'il y en ait partout en France et qu'il y en ait un à Bordeaux qui a été le premier, il y avait bien sûr des gens qui avaient ce souci, des magistrats qui voyait bien que le conflit parental se déplace très souvent sur les enfants, ou sur les biens d'ailleurs, je pense que les notaires pourraient nous en parler aussi, mais enfin sur les enfants ça a des conséquences graves. Mais les juges aux affaires familiales, au moment où nous avons commencé à nous préoccuper de ces problèmes-là, n'avaient pas et n'ont pas, toujours pas, je crois, de moyens de suivi éducatif, entre guillemets, ne peuvent pas ordonner une assistance éducative quelconque pour aider un enfant à rejoindre le parent auquel il n'a pas accès. Donc, ce souci existait. Existait aussi chez les thérapeutes de couple et conseillers conjugaux que nous étions. Et on a croisé ces interrogations avec d'autres professions qui avaient constaté évidemment les mêmes drames, donc des magistrats, des enseignants qui voyaient arriver les enfants lundi perturbés, bon, des pédiatres, des psychologues. Nous sommes retrouvés pendant 2 ans, je crois, pour réfléchir à ça. Donc le point rencontre, si vous voulez, ben, il est né d'abord de rencontres entre des intervenants, des gens travaillant dans le champ psychosocial. Donc toutes ces questions qui se posaient à plusieurs, ben, ont trouvé une réponse à plusieurs aussi. On s'est mis à plusieurs pour trouver cette histoire de lieu d'accueil. On a dit qu'il fautait un endroit pour que les enfants puissent, dans une atmosphère apaisée et en étant accompagnés, puissent rencontrer le parent qui leur est refusé ou qui n'ont pas vu depuis très longtemps. Bon, enfin, le détail des situations, vous le verrez après. Qu'est-ce que je dirais ? C'est que ce point rencontre, donc, qui a été le premier, a connu un énorme succès, parce que à la fin de notre travail pluridisciplinaire, donc cette approche plurielle autour de l'enfant dans le divorce, on a publié un petit livre, le voilà. Ouais. Et maintenant, du point rencontre de Bordeaux, voilà, il y a ça. La question s'est enrichie, et notre pratique aussi. Voilà. Ensuite, que dire ? Que le point rencontre. Oui, il y a diverses. Bon, je dirais. Perversions, mais enfin, le succès du point rencontre peut être perverti quelquefois. Ça plaît tellement aux parents, quelquefois aux avocats, même quelquefois aux magistrats, qu'il y a des prescriptions qui pourraient peut-être être évitées ou raccourcies. En fait, c'est pas un endroit où on doit s'installer, doivent s'installer la vie et la rencontre personnelle entre un enfant et son père, un enfant et sa mère. Ça doit être normalement un lieu de transit, un lieu de passage. Malheureusement, quelquefois, il y a des gens qui s'incrustent au point rencontre. Il y a des gens qui demandent tout de suite, des parents en conflit au moment de la séparation, qui demandent tout de suite une prescription point rencontre, parce que pour eux, c'est une bulle protégée. Et puis, pourvu que ça reste enfermé dans cette bulle très longtemps. Alors que nous, notre vœu, notre souhait de départ, c'est d'être donc un lieu de transit, si je reprends les métaphores postales, et que ces enfants reprennent bien sûr un droit de visite normal. Mais il y a de plus en plus de demandes, alors que quelquefois, on pourrait trouver des solutions plus normales et plus personnelles. Que dire encore ? La façon dont on a conçu le travail au point rencontre, bon, c'est l'objet de ce livre. Hein. Il explique que nous n'avions pas une position théorique au départ sur la façon de faire rencontrer des enfants et des parents. Il n'y avait pas de prise de position idéologique. Simplement, on a pris face à ces situations qu'il fallait réfléchir ensemble, à plusieurs. Et on a toujours travaillé à plusieurs. Donc c'est ce qui fait effectivement l'intérêt, l'originalité du point rencontre de Bordeaux. C'est ce travail à plusieurs qui nous permet de trouver des solutions, parce que ce sont des problèmes qui... Il y a des questions multiples, des situations multiples, et que à des questions ou à des... une origine, des problèmes multiples, eh bien, c'est à plusieurs qu'on trouve le mieux des solutions. On trouve ensemble une façon de procéder, et le bonheur veut que, finalement, l'équipe du point rencontre, l'équipe des intervenants, qui s'est renouvelée un peu depuis l'époque, a toujours eu le bonheur de trouver de nouvelles solutions et de s'entendre suffisamment pour les appliquer et pour en inventer d'autres. Je crois que c'est ça la clé du succès, ce qui est intéressant. Donc c'est une méthode qui part du réel, des données du réel. Voilà, cet enfant se comporte comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Même on essaie un truc et puis quelquefois... Alors, il y a toujours un gros travail en commun. On en discute ensemble et on voit comment ajuster la réponse. Et puis, il y aura d'autres choses à inventer. Ensuite, pourquoi on a fait un livre sur le point rencontre de Bordeaux ? Parce que c'est pas un modèle, justement. On ne veut pas proposer une façon de répondre. Et... Je me suis dit tout à l'heure qu'au fond, par contre, c'est un exemple. Je pensais un modèle et un exemple, c'est pas la même chose. Un modèle, il faut le reproduire. Je pense que là, c'est un exemple, mais il y a d'autres variantes. C'est un exemple de façon de travailler, et que d'autres, avec la même façon, vont pouvoir inventer d'autres réponses. Sûrement, il y en aura d'autres, et que bon, que même si on improvise, je pense que c'est ça la fécondité d'une. d'une création, je ne sais pas comment dire, mais enfin d'une nouvelle institution, c'est qu'elle puisse se renouveler, se transformer. Voilà ce que je souhaite.
Oui, on pourrait peut-être faire avec les questions de nos deux interlocuteurs du soir, sachant qu'on est très attaché à cette histoire de passeurs par rapport aux enfants et leur rapport à leur histoire, d'être des passeurs discrets d'enfants qui sont en train d'élaborer une subjectivité par rapport à leur histoire, c'est-à-dire de quelque chose qui va être dynamique dans le temps, fait d'effet d'après coup, et qui ne fiche jamais les choses dans l'ici et maintenant, une fois, il y a d'autres fois après, il y a un après coup ensuite, et il y a des chemins qui se font. Le petit papier d'Isabelle Castera était assez... elle a saisi ça dans son papier, que c'était pas quelque chose de figé, et qu'on n'est pas là pour instrumentaliser les enfants et faire qu'ils se plient à quelque chose qui a été décidé pour eux, sans qu'au passage, ils en pensent quelque chose pour la suite.
Je dois d'abord remercier l'équipe du Point Rencontre d'avoir publié ce livre. Il me semble très important pour deux raisons. Parce que si j'avais une idée de ce qui se passait au Point Rencontre, pour en avoir discuté avec Serge Bédère, avec l'équipe du Point Rencontre, pour m'être déplacé, avoir vu ce qui s'y faisait, je n'avais pas compris, ou je n'avais pas... Ce livre m'a permis de mieux voir quelle était la richesse du travail effectué. Et en même temps... de voir la question qui était posée, il y a une question qui est posée à l'institution judiciaire à travers ce livre, et notamment aux juges d'affaires familiales, qui est de dire finalement, vous faites primer la sécurité, et en faisant primer cette sécurité, vous n'assurez pas, vous ne permettez pas finalement à ce qu'il y ait des liens qui se créent et à ce qu'il y ait ce rôle de passeur qui s'effectue parce que en maintenant dans la durée les personnes dans ce Point Rencontre, et bien finalement à la fin il n'y a plus rien qui s'y passe. Cette critique est très intéressante. Alors c'est vrai que là j'y réponds, il me semble, et après donc je laisserai la parole, mais elle me semble importante et elle me semble sous-tendre Le livre, en tout cas, c'est une des idées forces de ce livre. Et c'est vrai que elle est importante. Elle est importante parce que depuis 10 ans, au moins 10 ans, nous sommes dans une société qui réclame de la sécurité. Et que cette sécurité, le juge vit dans une société dans laquelle les pouvoirs publics lui rappellent d'ailleurs très vertement que sa mission... parfois, selon lui, exclusive, serait de garantir la sécurité, une sécurité uniquement policière. Et la réponse que donne n'est envisagée petit à petit le Point Rencontre qu'en tant que terme de lieu fermé de sécurité. Et ce qu'il y a de très intéressant, et c'est en cela que ce livre est très précieux, c'est qu'il répond de manière... très fine, il répond par l'expérience au fait que la meilleure des sécurités, c'est le fait de permettre aux gens d'être bien, de permettre notamment à l'enfant de garder un lien avec ses parents, même si ceux-ci sont supposés violents. De permettre de croire qu'il y a un processus évolutif possible. Et c'est vrai que c'est je trouve, la principale des richesses de ce livre. C'est un livre que je trouve que les magistrats doivent absolument lire, car cela leur permet également de mieux voir ce qui se passe dans ces lieux et de mieux comprendre ce qu'il y a comme possibilité ce qu'offre comme possibilité le point rencontre. Et c'est vrai que là, donc c'était, alors ce n'est peut-être pas tout à fait une question, mais c'est un premier point qui me semble extrêmement important. Et alors, ce que je voudrais, moi, la question qui me semble la plus importante et ce qui est le plus intéressant, c'est comment faites-vous ? Expliquez-nous un peu comment faites-vous pour arriver justement à ce que ce lien avec des qui est parfois rompu, qui est comment ce lien arrivez-vous à ce qu'il petit à petit se rétablisse ou ne se casse pas complètement ?
Elle est difficile cette question.
Je peux dire quelque chose pendant que Gérard réfléchit. On a été surpris quelquefois de voir que le lien se rétablissait tout seul. On a vu des enfants qui n'avaient pas vu leur père depuis l'âge de 2 ans et qui en avaient 5 ou 6, et il y avait une espèce d'intimité qui se produisait et qui n'arrivait pas avec un inconnu. Des fois, ça s'est fait tout seul. Parce qu'il y a une mémoire, hein, et parce qu'il y a des sentiments chez l'un et chez l'autre. C'est pas un miracle de la génétique. Hein. Mais...
Oui, avant de répondre, et de façon très incomplète, je dirais que j'ai envie de faire une petite remarque sur votre remarque initiale, à savoir que c'est vrai qu'on a cette plainte, je dirais, pour employer un mauvais mot, un peu lancinante, à savoir qu'il y a beaucoup de droits de visite enfermés de façon trop longue. Il faut bien vous manifester ce qui ne paraît nous bloquer. En même temps, je dois dire que notre façon de nous étayer sur la justice est tout à fait essentielle et que c'est ce qui fait un peu l'ossature de notre travail. Et que si nous avons une certaine liberté de travail qui apparaît, je crois, dans ce livre, c'est-à-dire à s'interpeller, à prendre des initiatives étonnantes, quelquefois à contre-pied de ce qu'on attendrait, enfin, des choses comme ça, et à s'interpeller les uns les autres pour... parce qu'on ne sait pas trop où on en est. Alors on fait intervenir une autre personne parce qu'on se dit, tiens, moi, là, je sens que ça ne passe pas. Bien, c'est quand même pas évident dans toutes les équipes de faire ça, de se mettre comme ça en position un peu seconde, comme ça, on se dit, bon j'ai échoué, je n'insiste pas, je fais passer à quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Ceci dit, si on a cette liberté, je crois que c'est parce qu'aussi, on est fermement, très, très fermement, étayé sur vos ordonnances. Et si on n'avait pas ce cadre-là, qui pour nous est tout à fait fondamental, on ne pourrait pas se permettre cette souplesse dans le travail. C'est vraiment, ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment tout à fait essentiel pour nous d'être complètement tenus et soumis à quelque chose qui vient d'ailleurs, qui nous vient d'ailleurs, alors qui permet aussi, parce que là, vous le confirmerez, j'espère, l'ordonnance du JAF, dans la plupart des cas, permet que les parents s'arrangent, fassent évoluer leur situation par un accord amiable, par un accord entre eux, qu'on favorise le plus souvent. Mais en dehors de cette liberté qui est la leur, nous, on ne s'en permet aucune. Et c'est quand même un point d'appui très important. Alors, ça ne répond pas à votre question du tout. mais je ne sais pas trop comment y répondre. C'est vrai que Maddy disait qu'il y a des choses qui s'arrangent quelquefois toutes seules. Il suffisait simplement qu'un enfant et un parent puissent se rencontrer. C'est souvent ça qui est en cause. C'est un empêchement absolument hermétique de la rencontre de l'enfant avec son parent, le plus souvent son père, mais pas toujours. Il y a ça et il y a aussi quand même une façon de faire qui passe beaucoup par le groupal, par le collectif. C'est-à-dire qu'on dédramatise en ce lieu-là des situations qui sont sûrement dramatiques pour chacun, mais qui, du fait qu'elles sont partagées par d'autres, que chaque enfant voit comme ça, on a un grand nombre de familles, on en reçoit entre 60 et 70... Le record a dépassé les 80 par samedi, donc ça fait quand même du monde. Mais ce monde-là, ça apparaît de loin un handicap, ça apparaît quelque chose de très lourd. En fait, on s'est rendu compte que ça apportait beaucoup d'ouverture. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'on le maîtrise du tout, hein, vraiment, parce que les enfants sont dans un lieu où d'autres sont aussi dans la même situation et où il y a comme ça des interactions très, très intéressantes. Alors c'est vrai que ça ne sera pas la réponse à votre question, mais c'est un des éléments, faire apparaître ce collectif. Quand un enfant arrive dans un lieu comme ça, où il se dit finalement, je suis dans une galère dont je ne savais pas, enfin, et souvent il est dans une galère depuis longtemps, hein, dont il ne savait pas qu'elle était partagée par autant d'autres, chacun à leur manière, il y a un effet de dédramatisation, et il y a des choses qui deviennent possibles. Alors c'est juste un petit bout de réponse, je pense que mes collègues vont compléter.
Il y a ce qui s'est décanté dans le temps, Il nous a fallu longtemps pour modéliser un peu, pour trouver des points de théorisation aussi, pour, à partir de notre pratique. C'est pour ça que ça fait 25 ans, pour arriver à avoir quelques fils conducteurs. Dans l'esprit de ce que tu viens de dire, moi je crois qu'on a beaucoup appris à travers cette prise d'appui sur le double prise d'appui sur le collectif, c'est-à-dire autant entre nous d'un côté que sur le collectif des enfants et des parents qui se trouvent là, on s'est décentré du fait de vouloir faire pour s'occuper des conditions de possibilité que quelque chose advienne. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une position comme ça, un peu prêt à être là, mais pas trop. Et à partir de là, ça ouvre un champ de possibilités, c'est-à-dire qu'au fond, on s'occupe de faire vivre une fonction d'accueil, mais qui est souvent faite d'effets indirects. Alors, c'est tout un travail d'arriver à aller dans ce sens-là. Et au fond, cette fonction d'accueil, quand on arrive à faire en sorte qu'elle soit présente, qu'elle soit sensible aux enfants et aux parents qui se trouvent là, de fait, ça vient réduire tout un imaginaire. Je crois que c'est un des effets que ça a. Et ça vient également aider à décloisonner des choses. Ça restaure de la plasticité dans les mouvements psychiques de chacun et ça lutte contre des effets, on a trouvé ce concept en cours de route, de bannissement. C'est-à-dire que ce qui fige les enfants, souvent, c'est d'être pris dans le discours d'un des parents, dans le bannissement, dans ce discours-là, de ce qui concerne l'autre parent. Et du coup, ça les met dans des... alors on peut appeler ça des doubles liens, des doubles contraintes, ce qu'on voudra, mais ça les empêche d'être dans une liberté de mouvement, d'aller vers. C'est souvent un mouvement empêché ou un mouvement retenu. Alors c'est peut-être la question de la qualité de l'accueil, enfin tout ce travail autour de l'accueil, c'est peut-être ça que ça vient d'abord restaurer, aussi à travers ce que tu dis Gérard, du fait qu'il y en a plein d'autres autour qui, autrement qu'eux, sont concernés par des choses comme ça, et qui, visiblement, sont en contact avec, qui fait que ça restaure du vivant dans le lien. Je crois que ça, c'est beaucoup quelque chose que l'on a appris sur le tas. Alors, il y a pas mal dans la salle de personnes qui ont aussi des expériences de travail dans des lieux d'accueil enfants-parents, par exemple, avec lesquels cette notion d'accueil, de portage par la qualité de l'accueil, il y a une notion de cousinage, enfin il y a quelque chose qui se ressemble dans cette attention à l'accueil et aux effets indirects, comme ça, des présences des accueillants sur ce qui est produit chez les accueillis.
Une chose qu'on a vue assez rapidement dans le cadre de la pratique des points de rencontre, c'est aussi qu'il fallait tenir compte de chacun des parents. Ça paraît tout simple, comme ça, tout bête. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on s'occupait surtout du parent qu'on appelle visiteur, celui qui vient voir son enfant, et de l'enfant. Et très vite, on s'est dit, mais il faut un espace pour l'autre. Et ça, c'est une réponse à votre question, par contre. C'est-à-dire que c'est en dégageant... chacun, en laissant à chacun une position singulière et en dégageant l'enfant d'être trop porteur du rapport de loyauté, je dirais, à son parent gardien, que quelquefois on voit les choses aussi évoluer. Et pour ça, il faut laisser un espace de parole tout à fait essentiel à ce parent gardien, qui, de fait, dans la structure de point de rencontre, se trouve un peu exclu, c'est-à-dire qu'il amène l'enfant. Il faut se représenter un peu le lieu aussi, le lieu où il y a pas mal de monde et où on amène son enfant. Et si l'autre parent est là, on s'en va en ayant dit bonjour et au revoir. Et puis on revient à la fin de la visite. Donc ce parent-là se trouve exclu. Et je crois qu'un des points sur lesquels on a évolué dans les quelques premières années, c'est de travailler sur l'accueil de ce parent-là et de lui réserver un temps dans un cadre qui n'est pas le cadre des visites, mais qui est un cadre associatif où on le reçoit en entretien. Et il sait qu'il peut revenir, et il sait qu'il peut téléphoner. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on a vu des choses avancer aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, de fait, libère l'enfant de cette position de représentant, d'ambassadeur, de garant, dans toute loyauté, de son parent gardien, parce qu'en général, c'est quand même la position qu'il affiche. Et on sait aussi que quand un enfant affiche cette position, c'est aussi qu'il a perçu que le parent qu'il défend, qu'il soutient, est aussi un parent fragile, un parent en souffrance, Et donc, quand on a permis de dégager de cette prise directe et qu'il sait que son parent va pouvoir nous rencontrer, déjà, c'est quelque chose qui le libère un peu. Après, il faut faire aussi avec les maladresses des uns et des autres. Hein. Les parents visiteurs ne sont pas toujours des parents faciles non plus, en tant que parents.
Alors, j'ai lu ce livre de plusieurs façons. On ne peut pas le lire d'une seule façon, de toute façon. Je l'ai lu en tant qu'enfant ayant eu des parents difficiles. Je l'ai lu en tant que parent ayant eu des enfants difficiles. Je l'ai lu en tant qu'avocat ayant eu des clients difficiles. Je l'ai lu en tant que spécialiste de la médiation, qui est quand même pas très loin, même si le lien entre les points rencontrés et la médiation est carencé, de mon point de vue. Il y a quand même un gros travail à faire, parce qu'on n'est pas loin quand même de ça. Et je l'ai lu en tant que sociologue du droit. Et donc ma première question, j'en ai deux en fait fondamentales. Je pourrais vous empêcher de parler pendant toute la soirée. J'en ai toute une liste, mais je n'en poserai que deux. Donc je vais en poser une première avec le risque que je n'ai pas le temps ensuite de poser la seconde, mais tant pis. La première question a un lien avec celle que vous avez posée. Je me pose la question. Bon, on l'a dit, je répète la généalogie de ma question. Vous travaillez sur ordonnance de la justice. Vous accordez une importance considérable, tous, à rappeler le contenu de cette ordonnance à tous les gens qui viennent dans votre point rencontre. Vous y trouvez votre légitimité, en quelque sorte. Et en même temps, vous déclenchez des effets de violence, un peu médiatisés, mais enfin, par rapport aux personnes qui effectivement sont confrontées à l'arbitraire de la décision que vous leur transmettez. Vous êtes passeur d'une décision que vous n'avez pas prise, en fait. Alors ça, c'est très intéressant, la façon dont vous utilisez ce texte. Ce qui est plus problématique, me semble-t-il, mais ça, c'est le sociologue qui parle, c'est que de plus en plus, vos chiffres le montrent de façon terrible, je dirais. De plus en plus, vous êtes investi de mesures qui vous imposent d'organiser des rencontres dans les locaux et non pas dehors. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît comment ça fonctionne. Il peut y avoir, si j'ai bien compris, des rencontres dans les locaux, mais les gens peuvent aussi partir de là pour aller vivre d'autres choses à l'extérieur. Or là, on trouve des ordonnances qui effectivement imposent un nombre d'heures précises dans les locaux avec interdiction de sortie. Alors la question que je me suis posée naturellement, elle est perfide, mais bon, vous êtes quand même un sacré appareil de contrôle social, quasiment répressif. Où passe votre identité professionnelle quand vous êtes confronté à une évolution de vos pratiques qui vous impose effectivement de ne travailler que dans un cadre extrêmement fermé, avec des gens, avec tous les impossibles que cela induit au niveau de l'accompagnement, de vos attitudes professionnelles auprès des personnes. Voilà, comment vous gérez cette difficulté et comment vous battez, on sent qu'il y a une lutte, mais elle n'est pas complètement explicitée, il y a une pudeur là-dedans, comment vous faites pour ne pas devenir de véritables auxiliaires de justice, comme la justice voudrait que vous soyez.
Sous réserve.
Juste un petit mot pour commencer, je vais faire passer après. Alors, juste un mot. Alors. On essaie malgré tout de rendre ce lieu agréable. Et on s'est acharné à trouver un lieu où il y a de l'espace extérieur. C'est-à-dire que l'intérieur, c'est aussi quand même un extérieur possible, sous les arbres, dans une espèce de lieu entre le parc et le jardin, où il y a quand même quelques arbres et un peu d'espace. Ce qui fait que cet intérieur est moins emprisonnant, comme on pourrait l'imaginer, si on pense qu'il n'y a que des pièces fermées. Bon, mais je ne vais pas parler davantage, parce que ma collègue au bout...
J'en profite juste pour dire qu'on essaie quand même, même si c'est dans un lieu fermé à certains moments, de travailler avec l'esprit ouvert. Et de mailler les choses par un travail de recherche qu'on a très 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 longtemps mené, ça a été accompagné d'un groupe de recherche, l'existence de points en compte, pluridisciplinaire, où on essayait de réfléchir à des tas de questions, et de trouver toujours un moyen de réfléchir et de réfléchir encore avec les prescripteurs qui sont les magistrats de la Chambre de la Famille. Et Christiane Burliga est notre Madame TGI, puisque les contraintes de temps et de charge de travail des uns et des autres s'étant modifiées beaucoup dans le temps, et les magistrats de la Chambre de la Famille à Bordeaux, c'est une des juridictions de France qui traite le plus de dossiers. Il y a eu un film réalisé par Amal Moghazal qui avait été diffusé sur FR3 sur la pratique de la Chambre de la Famille à Bordeaux, parce que c'est une des juridictions les plus chargées en France, et où chacun des 6 cabinets de JAF, si je ne dis pas de bêtises, doit rendre quelque chose comme 1800 décisions par an. Enfin, c'est effarant. Donc, le temps possible pour réfléchir et pour faire du lien avec la microstructure que nous représentons, qui accueille à peine 1,5% de ces décisions rendues, évidemment, il est de plus en plus restreint. Donc, on a inventé, en dehors des réunions que l'on peut avoir, des rencontres formelles, on a inventé Madame TGI, qui va de temps en temps, au fil du temps, il faut qu'on ait des réponses inventives, qui va donc dans les couloirs du palais de justice à la rencontre de nos prescripteurs.
Oui, c'est en effet depuis un an et demi que je mène cette tâche, avec plaisir d'ailleurs, puisque je me suis aperçue que les personnes qui travaillent au tribunal sont très ouvertes à toute relation extérieure. Mais pour en revenir à la question du cadre fermé, comment on le gère, ce cadre en tant que contrôleur social, vous avez employé des mots forts. Je suppose que c'est pour nous faire réagir un petit peu, parce que c'est vrai que on a eu une expérience intéressante quand on a eu le passage d'un lieu à un autre il y a 5 ans, 6 ans maintenant, où nous n'avions dans un premier temps que des locaux fermés et où les passions s'exacerbaient et où les gens pouvaient jouer sur une scène plus intime, ce qui les menait dans ce lieu. Là, avec l'espace, avec la cour, avec les vélos, avec tout un tas de jeux, c'est vrai que nous avons aéré la situation et que ça nous permet aussi d'être à plusieurs places, à nous, et donc de travailler de plusieurs places, et de travailler à plusieurs, en ménageant des espaces pour les uns, pour les autres, en évitant qu'il y ait trop de conflits. Nous sommes des intervenants ouverts à la situation, et je crois que nous pouvons proposer du café, nous imaginons tout un tas de choses pour vraiment désaturer les conflits, et je crois que c'est très très important et que nous le faisons volontiers et avec une énergie, puisque nous sommes 4 ou 5 dans la journée du samedi. Nous avons beaucoup de situations, dont une quinzaine environ dans les locaux qui restent, et nous permettons des ouvertures aussi par exemple pour aménager des lieux où ils peuvent faire des goûters, recevoir les bébés. Nous avons de plus en plus de petits, de tout petits. Donc c'est vrai que nous avons dû nous accommoder et permettre que ce lieu devienne vivant et qu'il évolue au fur et à mesure des rencontres avec les parents. Et je crois que c'est très très important et que l'application de l'ordonnance ou du jugement est un cadre pour nous, mais dans ce cadre-là, nous pouvons jouer, nous pouvons mettre de l'aération et c'est très très important. Voilà.
Je voulais rajouter ce qu'a dit Serge, entre les murs, la parole est libre. Je crois qu'on travaille avec l'expression, la liberté d'expression existe, même quand il s'agit d'un droit de visite dans les locaux. Et pour répondre un petit peu à l'accusation de contrôle social, nous ne faisons jamais aucun compte-rendu aux magistrats, ce qui est très important. Les gens savent qu'ils peuvent parler avec leur enfant entre eux. Il n'y aura pas, de fuite.
Alors, une petite intervention pour indiquer quel est le vœu de la justice. Puisque qu'est-ce que désirent les juges aux affaires familiales lorsque lorsqu'il décide que le droit de visite s'exercera dans un point rencontre. Alors, tout d'abord, quand même, puisque c'est vrai que ce qui est important, c'est cette ordonnance, donc deux, trois mots. Nous sommes dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'une séparation avec des enfants. Les enfants doivent aller, donc restent chez l'un des parents et vont voir l'autre parent. Lorsque cela se passe bien, il n'y a pas de problème. Et il se trouve que, pour certains parents, la séparation est très douloureuse, qu'il peut y avoir des problèmes de violence à l'encontre d'un conjoint, qu'il peut y avoir donc, et qu'à partir de ce moment-là, les parties arrivent devant le juge en disant « Voilà, mon mari, mon ami est violent, il m'a battu devant l'enfant. À partir de ce moment-là, ce n'est pas possible, il boit. Mon enfant est donc en danger. Il a des problèmes psychiatriques. L'enfant est en danger s'il reste seul avec lui. » C'est dans ce contexte-là que le juge va dire que le droit de visite va se passer dans un point rencontre. Généralement, parallèlement à cette mesure, il va ordonner une expertise psychologique ou psychiatrique pour savoir si les témoignages qui ont été apportés correspondent à une réalité. Ça peut correspondre, le moment de violence peut correspondre au moment de la séparation et donc n'avoir aucune portée, ne pas correspondre à une personnalité, avoir été amplifié par la suite. Il faut donc savoir très exactement quelle est la portée, quelle est la « danger » entre guillemets, quelle est la possibilité pour ce père, cette mère, de vivre avec son enfant, de voir son enfant hors d'une structure qui est fermée. Le point en compte est en principe prévu pour cette durée de 6 mois et pour voir ensuite quelles sont les mesures possibles. Durant cela, le parent donc, va aller voir, donc, il y a plusieurs possibilités, il va y avoir un droit de visite donc, dans ce point en compte qui va pouvoir être fixé durant toute la période en étant fermé pendant 2 heures. Il va pouvoir être décidé qu'il va être évolutif et que pendant les 3 premiers mois, par exemple, il va être fermé et puis après va durer toute la journée, c'est-à-dire que l'on va amener l'enfant, le parent gardien, entre guillemets, va amener l'enfant au point rencontre, l'autre parent sera présent, il le prendra pour la journée et il le ramènera au point rencontre. Le point rencontre devient le lieu d'échange de l'enfant. Voilà, donc ce sont les deux trucs. Et puis après, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait un droit de visite qui soit même plus élargi, mais avec au départ, toujours, la remise de l'enfant au point rencontre. Voilà, donc il y a la possibilité, finalement, d'utiliser le point rencontre d'une manière restrictive ou au contraire, d'une manière évolutive, en fonction de ce qui va se passer, de façon à ce que l'enfant, petit à petit, se sente bien avec son père, avec sa mère, dans une relation de confiance, et que petit à petit, il n'ait plus besoin d'être dans un lieu fermé. Cela, c'est la solution idéale, c'est de fait, lorsque la solution fermée du point rencontre est brève. En tout cas, qu'elle dure, elle ne peut pas durer longtemps. Donc, il faut trouver une solution alternative. C'est le désir du juge, lorsqu'il va désigner le point rencontre, et de permettre le maintien du lien entre cet enfant et ce parent, présenté comme violent, présenté comme ayant tous les défauts de la terre, et présenté en tout cas comme dangereux pour l'enfant. C'est de dire, malgré cette dangerosité invoquée, un lien va être, on va maintenir un lien avec cet enfant. Et pourquoi maintenir un lien avec cet enfant? Tout simplement pour une raison très simple. C'est que cet enfant, je veux dire que si un des parents est un monstre, cela veut dire
pour l'enfant qu'il est à 50% un monstre. Et donc, avec cela, il va devoir vivre. Et ce n'est pas évident de se dire qu'on est à moitié l'enfant d'un monstre. Donc, il vaut bien mieux qu'il y ait déjà quelque chose, qu'on soit confronté à une réalité et qu'on s'aperçoive qu'on a peut-être un parent qui a des manques, mais que nous ne sommes pas face à un monstre qui empêche l'enfant d'être. Et ensuite, cela peut permettre à cet enfant, face à cette réalité, face à ces manques qu'il va constater, mais dans un lieu sécurisé, d'avoir des liens qui vont être peut-être d'une nature différente de ceux qui existent dans un cadre, entre guillemets, normal, mais qui vont exister. Et c'est là aussi, là, je retourne sur l'intérêt de ce livre, c'est à travers tous les exemples qui sont donnés, dans lesquels on montre comment, au bout de plusieurs années, eh bien, ces enfants vont garder un lien avec des parents dont on se demandait au départ comment cela serait possible. Il y a des exemples qui sont dans ce livre très très intéressants.
C'est-à-dire miser au fond sur la subversion dont les enfants sont capables. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Et aussi jouer malin par rapport à la question terriblement difficile que posait Jacques. C'est-à-dire qu'on essaie quand même de travailler avec acharnement depuis longtemps à notre propre perte. Enfin, c'est-à-dire à notre disparition la plus rapide possible dans l'histoire des enfants, c'est-à-dire à notre effacement à venir. Et que quand on est coincé d'un bord, on essaie de trouver un autre biais d'un autre, y compris par exemple de pouvoir faire savoir à un moment donné, ce qu'on travaille beaucoup entre nous, que dans l'état actuel de la décision, notre intervention est arrivée à son terme. On n'est pas obligé de rester une scène ouverte sur laquelle ça se passe, ça continue à se passer, dans des compromis dont les enfants font parfois les frais. On peut dire qu'on n'a plus de raison d'être là et le faire savoir. Par exemple, on peut se retirer de la scène. Et il y a également tout un travail qui est essentiel à mener avec, plus globalement, les partenaires sociaux autour de ces actions-là. La CAF est un partenaire extrêmement important actuellement, où on peut avoir des réflexions aussi sur les liens possibles ou pas, les articulations, lesquelles, entre le travail d'espace rencontre, la question du contrôle social. On n'a jamais créé Point Rencontre pour faire du contrôle social. On l'a créé pour mettre en question quelque chose qui se résumait au départ en une phrase, je ne sais pas si tu te souviens, Maddy, de cette histoire-là, qui était de dire, sur plusieurs modalités possibles, résumées en une phrase, la souffrance de l'enfant, c'est son histoire, ou de dire la souffrance de l'enfant, c'est son histoire. C'est à lui de l'élaborer, d'en faire quelque chose, de ne plus être un objet d'une souffrance qui lui tombe dessus, de pouvoir penser quelque chose à partir de ça. Alors là, évidemment, il y a tout un travail dans le champ social de recherche à mener, pour déprendre Point Rencontre d'une position de contrôle social, l'articuler à d'autres interventions comme celle de la médiation, bien évidemment, et de pouvoir faire un travail global. On a commencé dans des rencontres à le faire avec l'ensemble des équipes, de l'équipe des juges aux affaires familiales, les gens qui s'occupent de médiation, les gens qui s'occupent du Point Rencontre et les partenaires qui commanditent les services à travers les subsides qu'ils accordent, c'est-à-dire les collectivités locales qui sont des subventionneurs. Ça, c'est au niveau local. Et au niveau national, c'est d'articuler les choses en essayant de faire ce bouquin aussi là pour essayer de promouvoir des questions, ouvrir sur un débat très large dans le social autour de cette pratique-là. Et ça a été de veiller, par exemple, depuis Bordeaux, à initialiser la mise en œuvre d'une fédération des espaces rencontres. Il y a plusieurs personnes, plusieurs d'entre nous, Maddy Lajus qui est là, Marie-Noël Fayol Lussac qui est là-bas, Gérard qui est là, qui se sont passés le relais dans le temps pour être les administrateurs à tour de rôle de la Fédération des espaces rencontres, qui est un autre lieu plus en décalage, avec une position de surplomb, pour essayer de voir au niveau national qu'est-ce qu'on fabrique. Quand actuellement, les chiffres de la chancellerie, il y a un an et demi, c'était d'estimer qu'il y avait à peu près 22 000 enfants en France qui fréquentaient les espaces rencontres. Donc il faut absolument qu'on questionne socialement, qu'est-ce qu'on est en train de produire si on vise quelque chose qui irait dans le sécuritaire ou qui oublierait de s'articuler avec la médiation, par exemple. Tu avais annoncé une deuxième question.
Non, c'était la seule, mais je vais la...
Non.
Je vais continuer, quitte à vous lasser, mais ça me paraît important d'analyser politiquement, sociopolitiquement, le travail que vous faites, et pas simplement sur un plan technique. Il me semble que les risques de contrôle social qui vous menacent, et qui menacent votre identité professionnelle, sont d'autant plus forts que le chapitre 5, le montre absolument, évidemment, c'est que il y a de plus en plus de bannissements pour des pairs étrangers. Et on voit bien que pour cela, effectivement, il n'est pas question de sortie, statistiquement. Alors, cette espèce de densification du contrôle social sur les pairs étrangers relève à la fois du principe de précaution qui concerne l'ensemble des activités sociales à l'heure actuelle, qui vous touchent naturellement, mais également, c'est toi qui as employé l'expression à l'instant, s'intègre parfaitement dans une politique sécuritaire où effectivement il y a une suspicion ethnocentrique qui pèse sur des pairs étrangers, me semble-t-il. Et moi, j'ai cru le comprendre à travers les propos qui ont été, proposés ici.
Alors, je suis l'auteur de l'article.
Je sais.
Donc, oui, c'est quelque chose qu'effectivement on a remarqué à Point Rencontre depuis plusieurs années. Alors, moi, je ressens effectivement très fortement cette incidence de contrôle social, cette injonction à contrôler ses pairs étrangers, entre autres, mais aussi les malades mentaux, hein, contrôler les malades mentaux qui viennent voir leurs enfants. Moi, je considère que l'équipe dans laquelle je travaille, hein, où nous travaillons, on passe beaucoup de temps à essayer justement... d'élaborer des esquives, des ruses, déconstruire. Je veux dire, finalement, l'ordonnance nous met à l'abri de la contrainte sociale. Une fois qu'elle est posée, elle existe. À nous de développer des ruses pour qu'on arrive à se libérer de ce cadre le plus vite possible. Il me semble que c'est ce qu'on essaie d'élaborer avec les pères étrangers, avec les malades mentaux aussi. C'est un lieu d'élaboration d'un autre espace. Mais l'ordonnance est là pour nous dire que cette contrainte est posée dès le départ. Quoi.
Alors, c'est vrai que ce chapitre, c'est vrai qu'il y a notamment une ordonnance qui est citée. Étonnante. Mais je veux dire qu'il y a... Enfin, moi, ce que je peux vous parler, en tout cas, de ce que j'ai remarqué. Concernant les étrangers. J'ai remarqué que jusqu'à il y a à peu près, enfin, j'ai remarqué que, disons, il y avait une pratique, en tout cas, avant de parler du point rencontre, d'interdiction de sortie des territoires français qui était très fréquemment utilisée. Ce qui ne correspondait pas, enfin, alors correspondait de fait à une chose très simple, c'est que lorsqu'un enfant est à l'étranger et qu'il ne revient pas en France, c'est après extrêmement difficile, en tout cas, de le faire revenir, notamment si ce pays n'a pas souscrit à la Convention de La Haye. Alors, c'est vrai d'un autre côté que l'enfant a droit à connaître ses familles des différentes origines. Je veux dire que lorsqu'un parent décide de choisir un autre parent qui est d'un autre continent, il le sait au départ. Donc, c'est pas la surprise. À partir de ce moment-là, il sait que l'enfant qu'il va avoir aura inéluctablement des liens avec cet autre continent. Et je veux dire qu'il y a de temps en temps, il faut le rappeler aux parents parce que c'est quelque chose qu'ils oublient au moment de la séparation.
Il voudrait que l'enfant ait été conçu avec un Français et qu'il ne sorte pas, et que donc il n'y ait aucun risque de sortie du territoire. Ils en ont choisi. Ils l'ont choisi différemment au moment de la conception. Il est normal comment la séparation, eh bien, ce soit différent. Voilà, ça c'est un point. Et c'est vrai que, à l'époque, j'ai trouvé qu'il y avait une tendance qui était de protection, qui pour moi ne correspondait pas, en tout cas, à ce que à ce qui est le désir des enfants et au fait que tout simplement l'enfant a droit à connaître chacune de ses familles. Deuxième point, lorsque et là qui est un point nouveau, qui est le problème des étrangers en situation irrégulière. Les étrangers en situation irrégulière, il y a quelques années, ça présentait pas, c'était pas un problème. Aujourd'hui, un étranger en situation irrégulière, du jour au lendemain, se fait arrêter et se fait rapatrier dans son pays. C'est-à-dire qu'il y a également un danger pour l'enfant je veux dire qu'on se trouve avec une personne qui a un domicile, mais qui est fluctuant parce qu'il n'est pas en règle vis-à-vis des forces de police. Et donc, il faut trouver une formule de façon à ce que cet enfant puisse voir son père, mais le voit également en étant en sécurité. Sachant que, parfois, la mère ne va avoir qu'un désir, c'est que le père parte. Ce qui veut dire que donc il y a plusieurs enjeux et ces dernières années ont fragilisé considérablement la position des pères étrangers, ou essentiellement des pères étrangers en situation irrégulière. Et à partir de ce moment-là, le juge, lorsqu'il prend une décision, est obligé de tenir compte de toutes ces contraintes. Et puis après, donc le troisième élément, il est clair, et c'est d'ailleurs dit très très bien dans ce livre, le problème culturel que ces pères étrangers ont est considérable. Et donc il y a une adaptation entre le bon père tel qu'il est chez eux et tel qu'ils l'ont vécu, et le bon père qu'on leur demande d'être en France. Et là, il y a pour les pères une très grande difficulté, et certaines mères savent très bien l'exploiter. Je veux dire que, et c'est vrai que lorsque le juge arrive, qu'il a des témoignages qui vont dans un sens, que la personne n'a pas intégré tous les interdits français, eh bien, juridiquement, elle se trouve ficelée. Et le problème, c'est que il y a à partir et la personne voyant que la situation lui échappe a comme seule réponse la colère, ce qui fait que ça ne fait qu'aggraver son cas et que confirmer au juge que de fait il faut que ça se passe en point de rencontre. C'est le problème est également cette inadaptation culturelle que d'ailleurs je trouve dans le livre, vous décrivez très très bien, hein, c'est très, mais qui pose de vrais problèmes à partir du moment où le juge ne connaît pas la personne et le juge n'a pour prendre sa décision que des témoignages. C'est en fonction de témoignages, de crises de violence qui vont être attestées, de passage à l'hôpital avec des jours d'ITT, et c'est au vu de cela que le juge va prendre sa décision. C'est-à-dire qu'il a une vision qui est tronquée de la réalité. Et face à une personne, un étranger qui, lui, n'arrive pas à utiliser l'appareil judiciaire et à faire entendre sa voix. Donc c'est également une des raisons du fait de cette impression que vous avez, qui est à la fois vraie, et en même temps fausse, je veux dire, quant aux vraies motivations.
Mais je crois que dans ce qu'on peut faire dans le vivant du travail et des rencontres, c'est aussi trouver des modes de questionnement des personnes que sont chacun des parents, à l'inverse de ce que vous avez fait fonctionner, ou en contrepoint de ce que vous avez fait fonctionner. C'est aussi travailler avec ce parent, souvent c'est un père, mais ça peut ne pas être un père, ça peut être une mère, qui a un statut d'étranger, ce en quoi il est pour quelque chose dans ce qui lui arrive, parce qu'étranger avant que l'enfant soit fait avec un autre parent français, il l'était déjà avant aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a joué là? C'est une question qu'on n'arrête pas de relancer tout le temps. Dans le discours, l'un se plaint de l'autre, on essaie de trouver des biais non frontaux et un peu astucieux pour, au fil du temps, faire en sorte que la question énoncée revienne un peu en écho à chacun qui l'a dit, de savoir pourquoi donc il est pour quelque chose dans ce dont il se plaint. C'est-à-dire, vous rappelez que si l'un a choisi l'autre pour faire un enfant avec, l'autre a aussi accepté d'être choisi par l'un, ou a aussi choisi l'un pour faire cet enfant aussi. Et que donc, on renvoie chacun à sa responsabilité du moment, au regard du vivant d'une relation, et de ce qu'on a fait fonctionner, ou ce qu'on a essayé d'aider à restaurer comme lien. C'est-à-dire, c'est souvent l'enfant qui est là, qui tire la jambe du pantalon du père ou qui tire la jambe du pantalon de la mère, pourquoi pas, ou de sa jupe, pour dire, tu fais quoi avec moi? Voilà. Hein. C'est ça qu'on essaie de restaurer comme enjeu. C'est pas éliminer l'un. En général, dans une histoire, si un partenaire, notamment étranger, a été choisi, c'est souvent une façon de régler ses comptes avec ses parents impossibles, enfin on voit bien. Donc une fois que l'enfant est là, on ne va pas remettre les compteurs à zéro et faire comme si l'histoire n'avait pas existé. On voit comment ces questions s'ouvrent et risquent de se refermer, et nous on est là pour les réouvrir. Alors je voulais juste dire, avant de repasser la parole à Jacques, que par rapport à ce risque-là, il y avait, au risque que l'on soit des lieux de contrôle social établis, il y a une espèce de points de contrôle à l'envers, c'est-à-dire que régulièrement on est menacé de disparition parce que tous les ans on ne sait jamais si on va avoir le budget pour fonctionner l'année d'après, et régulièrement on est menacé de disparition parce qu'on n'a plus de locaux pour fonctionner et qu'on est des itinérants du spectacle. On vient d'être sauvé là par la mairie du Bouscam, mais on a failli là aussi encore. On est précaire, donc au fond notre précarité c'est la meilleure réponse au fait qu'on continue à réfléchir nécessairement tout le temps avec d'autres partenaires, dont notre survie dépend aussi, et qu'on ne soit pas trop installé sur la scène du monde, quoi, quelque chose comme ça.
Alors je vais parler de cette précarité, justement. Moi, ce qui m'a fasciné dans ce bouquin, je vous incite à le dire ne serait-ce que pour ça, c'est l'expérience du point rencontre telle que vous l'analysez, la présentez, me paraît un laboratoire absolument étonnant de la postmodernité. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer. Ça renverse quand même plein de conceptions traditionnelles de l'institution. C'est un laboratoire où, je cite cette expression qui est très jolie, où rien n'est simple comme un bonjour. L'enfant est là, probablement. Et encore. D'une certaine façon. Les parents, par contre, ils sont très incertains. C'est des mots que je tire de livre. Hein. Les parents, ils sont incertains. Certains viennent, certains ne viennent pas. Ils sont là, ils ne sont pas là, etc. C'est un lieu que vous qualifiez, suivant les chapitres, de provisoire, de transition. Vous dites qu'il y règne une ambiance de courant d'air. Non, je me suis posé la question avec Auger, savoir si c'était pas un non-lieu, de ce point de vue-là. Et alors, les intervenants, magnifiques. Alors, j'ai beaucoup aimé l'esprit d'équipe, la métaphore du rugby, parce que je l'ai pratiqué moi-même, donc tout ça, cette espèce de collectif solidaire qui fonctionne, semble-t-il, de façon assez merveilleuse. Alors, il faudrait voir, mais bon, vous le présentez de façon assez idyllique. Et alors, les intervenants, ils sont légers. Il y a un éloge de la légèreté dans l'intervention. Les gens sont lourds quand ils viennent là. L'intervenant doit être léger. Ça, j'adore ça, la légèreté. Je crois que c'est ce qui peut nous sauver de bien des choses. Et alors là, c'est très bien montré. La souplesse, être plastique et être flottant. Voilà, c'est des mots qui sont utilisés tout le temps. Alors tout ça, c'est quand même un mot, vous voyez. C'est souple, mais c'est... Voilà. Alors, ça épouse bien, probablement. Il faut travailler de loin. Les gens sont interchangeables. Les gens sont interchangeables. Vous pouvez avoir un intervenant un jour, un autre le lendemain, un troisième, un quatrième, je ne sais plus, jusqu'à 12 probablement. Voilà. Et vous exercez un travail qui est qualifié, in fine, par Serge, d'invisible. Alors comment vous expliquez le paradoxe qui consiste à produire des effets relativement pérennes dans un dispositif qui est aussi indéfinissable?
Vas-y. Donc je ne sais pas si j'ai tant de choses à dire là-dessus. C'est ces mots qu'on utilise, c'est vrai, les uns ou les autres, chacun les nôtres, hein, mais ils sont assez réels. Enfin, on a une certaine malléabilité, quoi. Et justement, d'autant plus qu'on a affaire à des gens d'une extrême rigidité. Enfin, le mot psychorigide est le mot qui revient souvent quand les JAF parlent un peu de leur clientèle. Ils parlent beaucoup de psychorigidité. Et on est un peu en contre-pied de ça, effectivement. Tout en étant, comme je disais tout à l'heure, extrêmement limité et soumis à un cadre qui, pour nous, est assez essentiel, c'est cette ordonnance. C'est ça qui nous permet aussi, cette souplesse, je crois. Il y a aussi cette position quand même qu'on a adoptée, de ne pas, depuis le début, de ne jamais faire d'écrit sur le contenu de la relation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait partie, qui est dans le lieu, qui y reste, sur quoi on n'a pas à se poser en expert, on n'a pas apprécié, forcément, sauf quand il s'agit d'assurer une certaine protection, quand même, parce qu'il y a des parents qui, quelquefois, sont explosifs. Bon, enfin, je ne sais pas. Quoi. Je vais laisser parler à mes collègues. On est un peu flottant, comme moi, là.
Mais, je vais parler. Oui, dire à mon voisin, puisque vous avez très bien lu ce livre, je trouve que le passage sur le théâtre de marionnettes, sur le marionnettiste de Kleist, illustre parfaitement, quand même, ce que vous avez dit et la réponse qu'on y apporte.
C'est vrai, mais peut-être faut-il expliquer à la salle.
Ah, je ne vais pas savoir, je laisse aux auteurs. Il y a un excellent spectacle aussi qui s'appelle Le Cirque Invisible, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Alors, le marionnettiste.
Le marionnettiste, je ne sais pas. Ça nous amènerait quand même assez loin, cette nouvelle de Kleist. Mais pourquoi pas, qui se référait au fond à une forme de théâtre de marionnettes japonais où le montreur de marionnettes est présent sur la scène et avec des marionnettes de grande taille. Au fond, on est un peu ça, on est flottant, on est tournant, on est autour, on est dans quelque chose comme ça. Mais surtout, je crois que dans ces présences-là, on a appris à considérer ce qui se passe là comme étant pensé en termes de scénarisation. C'est-à-dire que Point Rencontre, c'est avant tout... Alors, c'est une commande sociale, mais au-delà de la commande sociale, c'est une scène ouverte sur laquelle chacun vient jouer une partition dont il a en partie, dont une partie du script lui échappe parce qu'elle est inscrite souvent dans sa propre histoire et dans sa propre généalogie. Et nous, dans nos façons de tourner autour, de nous étonner, de bon, tout ça, on aère les affects. Hein, c'était une expression de Françoise Zolto, moi que j'aime bien. Le fait d'aérer les affects comme on aérait les édredons. On tape dessus, puis ça aère un peu. Et on s'enrhume. Enfin, il y a moins d'allergie. On éternue moins si on fait ça. Alors, nous, on a appris à faire un peu ça en jouant, ce que rappelait aussi Benoît, avec toutes les nuances possibles autour de la contrainte. Parce qu'on a l'air très accroché à l'ordonnance. On l'est. Mais parce qu'au fond, ce qui fonde la force de l'ordonnance, c'est le conflit existant entre les parents. Le point de limite de l'ordonnance, c'est ce qu'on appelle en droit le meilleur accord entre les parties. Je veux dire, il ne tient qu'aux parents d'arrêter d'être en conflit, de se mettre d'accord sur autre chose. Et à partir de là, la remise en route d'un exercice un peu créatif de leur autorité parentale fait qu'ils peuvent tout à fait trouver d'autres solutions que celle qui est prescrite par défaut comme minimum garanti tant que le conflit prend le devant de la scène et que c'est plus possible de se parler. Mais nous, on rappelle un peu que, bon, et alors, vous voyez ça comment dans 10 ans, vous serez toujours dans ce truc-là ou vous allez inventer autre chose. Enfin, je veux dire, ça fait partie des courants d'air qu'on essaie de faire dans cette légèreté. Alors, c'est vrai que ça, moi, je crois que chacun d'entre nous, on est prêt à reprendre la balle au bon du côté de la légèreté. Hein, on a appris à être un peu distrait, à être, voilà, flotter un peu parce que, parce qu'au fond, l'essentiel, c'est pas qu'on ait l'air de faire, c'est qu'on garantisse les conditions que ça se passe, quoi. Y compris ce qui va nous échapper, parce que souvent, ça se débloque sur des trucs inouïs, enfin des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer, sur des paroles comme ça qui déboulent au coin d'un entre-deux où on apprend quelque chose d'assez étonnant sur quelque chose qui est inscrit dans la génération d'avant ou sur bon, et puis une fois que ça a été entendu, saisi quelque part, ben ça y est, ça se déplace parce que ça n'a plus les mêmes raisons de se cristalliser, de rester rigide, et on a opéré un décalage. Bon, ça c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait de mieux. Alors, c'est vrai que le travail invisible, c'est beaucoup les gens qui travaillent dans le champ de la psychodynamique du travail qui nous ont amené des notions comme ça. Hein. C'est-à-dire, c'est pas sorcier, c'est tout le travail qui se passe dans plein de lieux où il s'agit d'accueillir. C'est-à-dire que quand c'est pas fait, ça se voit, hein, parce que c'est le bazar. Bon, c'est la violence et le bazar. Quand c'est fait, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est. On voit pas comment c'est fait. Mais on voit qu'on décale la violence, qu'on décale des tas de choses. Or, ça, décaler la violence, on a appris sur le tas que ce n'était pas une vue de l'esprit. On a actuellement deux ou trois fois plus en nombre de situations dont la dynamique est toujours aussi explosive potentiellement. On n'est pas tellement plus nombreux et la violence a beaucoup baissé. Bon, donc, on doit savoir y faire moins mal avec. On a dû trouver des trucs pour alléger un peu. Moi, j'aimais bien le mot qui est circulé tout à l'heure, de désaturer. Hein. On a appris à plusieurs, effectivement, dans cette façon de jouer un peu comme ça, à déconstruire quelque chose qui est la prévalence de ce conflit, comme ça, où il faudrait que jusqu'à la nuit des temps et sur les trois générations qui suivent, ça continue à être la guerre des origines. Ben non, quoi. Hein. Nous, on dit, ah bon, c'est une drôle d'idée. Vous voulez pas un café ? Enfin, vous voyez, ça décale. Pas toujours, mais on y arrive souvent. Avec des petites choses comme ça. Parce qu'au fond, le théâtre de marionnettes, c'est ce que reprend Lacan, reprend ça autour de la question du semblant, si on veut théoriser un peu par là. Hein, c'est-à-dire la dimension du symbolique. Bon. Et c'est quoi le symbolique ? Nous, ce qu'on réapprend tout le temps, c'est qu'au fond, c'est un agencement de détails. Bon. Alors, si on bouge l'agencement des détails, de façon un peu astucieuse, on a des effets aussi sur le fait peut-être de décaler des positions comme ça qui apparaissent comme très enquistées, mais dont il n'est pas écrit nulle part que ça doit être comme ça pour les siècles et des siècles. Alors on va devoir s'arrêter, sauf pour les courageuses et les courageux qui voudraient affronter le froid, traverser la place Tourny et venir prendre un verre et un bout de pizza dans le petit bureau de Point Rencontre qui est en haut de la rue Fondaudège. Voilà. Et donc on remercie beaucoup Jacques Faget, Olivier de Blaye de Gaix et nos amis de la librairie Mola et vous pour votre présence. Voilà.